Géopolitique. Éric Bataillon.
Bonjour. Créée en 1976, la revue trimestrielle Hérodote s'efforce de promouvoir une géographie d'action et une conception nouvelle et globale de la géopolitique. Une ambition que n'ont pas manqué de souligner les principaux intervenants aux festivités organisées cette semaine à l'Institut du Monde Arabe à Paris à l'occasion des 40 ans de la revue. L'allocution de clôture a été prononcée par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et l'on a entendu également l'écrivain et académicien Éric Orsay, l'ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne et aussi à Paris, Leyla Shahid, ainsi que notre confrère Bernard Guetta, spécialiste de politique internationale à France Inter. À l'occasion de cet anniversaire, Hérodote sort un numéro doublement spécial. C'est à la fois un numéro double et aussi un numéro articulé autour de deux axes, l'apport de la géopolitique et de la pensée d'Yves Lacoste à la géographie universitaire et scolaire, et Géopolitique oblige, le monde arabe, thème central du numéro, ce qui explique pour partie que la cérémonie d'anniversaire ait eu lieu à l'Institut du Monde Arabe. À la tribune, il y avait également deux de nos invités. Yves Lacoste, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'encyclopédie Wikipédia vous présente comme le père de la géopolitique en France, une paternité acquise lors de la parution en 1976 d'un ouvrage référence. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est cette même année que vous fondez la revue Hérodote chez François Maspero, un éditeur engagé, s'il en est, décédé, je crois, l'année dernière. Également à la tribune est avec nous Béatrice Gibelin, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à l'Institut français de géopolitique à Paris 8. Vous avez participé à la création de la revue Hérodote dès 1976, après votre thèse de géographie sur Élysée Reclus. Vous en êtes aujourd'hui la directrice. Enfin, Delphine Papin, bonjour.
Bonjour.
Docteur en géopolitique. Vous avez collaboré à l'émission de télévision Le Dessous des Cartes avant de rejoindre la rédaction du journal Le Monde, où vous avez désormais la responsabilité de la cartographie. Alors, pour commencer cette émission, on va parler de la création de la revue avec vous, Yves Lacoste. Dans quelles circonstances vous avez, en 1976 ou peut-être même avant, eu l'idée de créer la revue Hérodote ?
Il faut dire que avant 1976, j'avais fait un certain nombre de choses. J'avais travaillé sur la question, ce qu'on appelait le sous-développement, le tiers-monde, et ceci m'avait valu une certaine réputation. Le que sais-je, les pays sous-développés m'a surpris, parce que il y a eu une trentaine de traductions pirates, d'ailleurs, et j'étais assez étonné. Et en fait, il y avait l'intérêt, la nouveauté, si vous voulez, vient du fait que, certes, il y avait une partie de mon raisonnement, parce que présenter les pays sous-développés, ça implique, qu'on le dise ou non, référence à une certaine façon de voir les choses, d'expliquer les problèmes. Donc il y avait une certaine référence au marxisme, mais à l'époque, en France, et ailleurs d'ailleurs, en Union soviétique et ailleurs, il y avait une caractéristique, c'est que on ne parlait pas, on ne devait pas parler des problèmes démographiques. Qu'il y ait une croissance démographique formidable et nouvelle dans ces pays du tiers-monde, ah non, c'était une manipulation de l'impérialisme, comme on disait, hein, pour masquer les problèmes. Or, j'avais donc, m'étais référé à ce qui était d'une évidence, donc j'avais parlé de la croissance démographique, qui était une donnée nouvelle, ce qui faisait, du même coup, que ces pays sous-développés n'étaient pas des pays attardés dans une sorte de stagnation historique, mais qu'on le veuille ou non, il y avait une série de changements. Et ça, je crois que ça a été une des raisons pour lesquelles des mouvements d'extrême-gauche, et ne manquaient pas dans ces pays du tiers-monde, et qui jusqu'alors s'étaient trouvés bloqués par cette sorte de discrédit de tout ce qui touchait à la croissance démographique, eh bien, sans m'en demander mon avis, et commencé à en parler, et avait fait des traductions pirates sans demander à leur supérieur idéologique s'ils avaient le droit ou pas le droit.
Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait, je ne parlerai pas de concurrence, mais d'autres ouvrages, d'autres revues qui parlaient de géographie, qui parlaient de politique,
non,
etc.
Non. Non.
Alors, quel est l'élément déclencheur qui vous a incité à faire cela ?
Parce que je m'étais rendu compte de l'efficacité du raisonnement géographique. Sans l'avoir cherché, hein. Mais il y a des circonstances où je me suis trouvé, constaté, très étonné, si vous voulez, de l'efficacité de mon raisonnement.
Par exemple,
non,
au Vietnam.
Non pas que je sois, que je me considérais comme un génie, mais j'appliquais des raisonnements géographiques qui me paraissaient de ça. Par exemple, en 1972, on est encore à la guerre américaine au Vietnam, et là, brusquement, si vous voulez, les choses dans les médias, dans les journaux, prennent une tournure dramatique. Il ne manquait pas jusque-là de tragédie, hein. Mais là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'on commence à parler, parce que les communistes vietnamiens dénonçaient une catastrophe à venir, c'est que les digues du fleuve Rouge au Nord-Vietnam étaient bombardées par l'aviation américaine. Et les journaux en parlaient, mais je me rendais bien compte que pourquoi accorder à des digues, hein, qu'est-ce que c'est qu'une digue ? Je ne voyais pas très bien. Alors, il y avait un contraste entre un discours très, très dramatisé, à juste titre, mais moi, je n'étais pas du tout spécialiste du Vietnam à l'époque. Hein. Donc, c'est une réaction d'un géographe qui entend parler de ça. Et ce qui était étonnant aussi, c'est que les Vietnamiens criaient que c'était une catastrophe que les Américains cherchaient délibérément à provoquer, mais attaquer des digues, normalement, on aurait dû avoir des photographies de digues éventrées. Hein ? Or, il n'y en avait pas.
Et vous êtes rendu sur place, d'ailleurs.
Alors, attendez, si vous prenez ça comme ça, comme je fais mes bagages et puis je pars comme ça. Non, ça ne s'est pas passé comme ça.
Alors, comment ça s'est passé ? On vous a
alors,
invité à
j'ai
venir
écrit
sur place.
D'abord mon rôle de petit professeur, petit, enfin, entre guillemets, je savais bien que je n'étais pas un petit géographe, déjà. Parce que j'avais fait un certain nombre de choses. Puis j'avais fait beaucoup l'école buissonnière, ce qui m'a ensuite beaucoup servi. Donc j'ai écrit un article pour expliquer très simplement qu'un fleuve qui sort des montagnes, où il y a eu beaucoup d'érosion, et donc il a beaucoup d'alluvions, qui débouche dans une plaine, eh bien ce fleuve, si la plaine est assez grande, jusque vers la mer, eh bien ce fleuve coule au-dessus du niveau de la plaine, ce qui devrait être bien connu par les géographes, mais même un certain nombre d'entre eux n'y accordent pas l'importance que cette constatation mérite d'avoir. Donc j'ai envoyé un article au journal Le Monde pour expliquer ça, très simplement, hein, sans entrer dans la polémique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et Le Monde a publié mon article 2-3 jours plus tard, et quelques dizaines de jours plus tard, un coup de téléphone enfin parvenu, de quelqu'un que je ne connaissais pas, car au Vietnam, je ne connaissais personne à ce moment-là, qui me demandait de venir tout de suite à Hanoï. Donc, comme c'était plein de périodes des bombardements, Camille Lacoste, ma femme, a dit qu'il n'en était pas question. Bon, et je me souviens, je raconte ça toujours avec un grand amusement, que mon fils aîné, qui devait avoir 14 ans, qui était derrière moi, on était dehors à la campagne, a prononcé ces paroles définitives. Papa, si tu n'y vas pas, t'es un con.
Alors, donc, vous y allez, du coup,
alors,
de fait.
Alors, vous croyez comme ça que c'est facile comme ça, hein, en 72, de décréter qu'on va à Hanoï, alors qu'il fallait passer par Moscou. Je n'avais absolument aucun visa, hein, rien du tout. Donc, il y a eu une série de circonstances et de tractations, sans doute, qui ont fait que, après être venu à Paris pour dire qu'il fallait que j'aille à Hanoï, je le faisais avec une certaine mauvaise foi, parce que j'espérais bien que je n'irais pas. Hein.
Donc,
c'était impossible. Et finalement, j'y suis allé.
Et ce que vous avez vu, c'est effectivement des bombardements sur les digues, mais particulières.
Non. Une fois arrivé à Hanoï, tout le monde avait oublié, apparemment, qu'on me demandait de venir. Donc, j'ai été obligé de me fâcher et de dire que c'était bien gentil. Ils dénonçaient des bombardements sur les digues, mais qu'ils n'étaient pas foutus de montrer une photographie de digues éventrées. Par conséquent, les autorités avec lesquelles j'étais en contact étaient bien embêtées. Et on m'a demandé ce que j'envisageais de faire. Mais j'ai dit d'abord aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, à un certain moment, j'y suis allé, ce qui, au moment des des bombardements n'était pas une opération facile. Hein. Donc c'est avec, on va dire, un commando de l'armée vietnamienne, un peu des forces spéciales. J'ai compris bien plus tard que si j'avais pu partir comme ça, c'était qu'il y avait eu une certaine connexion qui s'était établie entre les services secrets soviétiques et les services secrets vietnamiens.
Alors, est-ce que c'est cette confrontation au terrain, à ce moment-là, oui, qui vous donne l'idée de créer cette revue quelques
années? Pas tout de suite.
Quelques années plus tard.
Les choses sont plus compliquées. Une fois que j'ai compris que c'était pas des bombardements avec des grosses bombes qui éventraient, mais c'était des torpilles qui s'enfilaient dans la terre des digues, bien qu'elles soient tassées, compactées, de façon à ébranler la digue et qui casserait au moment où la grande crue de mousson arriverait. Bon, je suis rentré, Le Monde a publié tout de suite le compte-rendu de cette mission, et surtout publié la carte des points de bombardement avec le commentaire que j'en faisais pour montrer que ces points de bombardement n'étaient pas comme ça par hasard, mais qu'ils correspondaient tous à des endroits où, compte tenu de l'hydraulique fluviale, le fleuve Rouge décrit de grands méandres, et sur la rive concave du méandre, c'est là que la pression de l'eau au moment de la crue est la plus forte et que la digue a le plus de risque de casser. Donc ce second article du Monde a eu un retentissement international considérable, qui m'a surpris d'ailleurs. Même j'ai appris bien plus tard que le pape avait été prévenu et qu'il avait téléphoné au président des États-Unis. Bon, pas bien. Alors, après ça, comme j'avais déjà mesuré en différentes circonstances l'efficacité du raisonnement géographique, je suis allé voir l'éditeur François Maspero, que j'avais rencontré lorsque je lui avais apporté mon livre sur un grand historien maghrébin du XIVe siècle, Ibn Khaldoun. Ça fait partie de ce que j'appelle, quand je fais l'école buissonnière, parce que, en principe, je n'avais aucune raison de m'intéresser à ça, sauf que...
Et François Maspero,
A dit tout de suite, oui. Et alors, ce qui, une fois qu'on a décidé, parce que je n'étais pas tout seul, j'étais à l'université de Vincennes, comme on disait, qui est devenue l'université Paris 8, avec un groupe d'étudiants. On avait travaillé ensemble depuis plusieurs années déjà, et manifestement, ils avaient la capacité de devenir de très bons chercheurs, même si la plupart d'entre eux n'étaient pas des géographes d'origine, mais plutôt des historiens. Donc, avec ce petit groupe dans lequel se trouvait Béatrice Gibelin,
qui est avec nous, qui va intervenir à l'instant.
Et on a décidé, bien sûr, de faire cette revue, mais pas de la chance. Enfin, la raison a fait que on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Donc, alors, ceci a pris finalement 4 ans.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, je vais donner la parole à Béatrice Gibelin, qui était donc au départ de cette revue. Oui. La revue s'appelle donc Hérodote. Pourquoi et justement, qu'est-ce que vous choisissez de mettre à l'intérieur?
Ça, c'est la grande idée d'Yves, parce que Hérodote est toujours considéré comme le père de l'histoire. Ah oui. Et Yves, qui s'était intéressé au personnage Hérodote, avait mieux compris, je crois, que beaucoup d'historiens, ce que faisait Hérodote, c'était des enquêtes au service de Périclès, dans une situation qui était la situation d'affrontement avec les Perses, et que donc faire du renseignement pour dire l'importance des Perses, comment ils étaient organisés, c'est-à-dire non pas sous-estimer l'adversaire, comme on dirait aujourd'hui, mais prendre en compte son savoir-faire, donc une sorte d'agent de renseignement, c'est ce qui explique le dessin qui illustre la première page d'Hérodote, le buste d'Hérodote avec un petit pistolet et un petit globe au bout, qui est un dessin de Vias. Et Lacoste raconte souvent que, tombant sur Vidal Naquet, très grand historien s'il en est, qui lui avait dit « Mais enfin, pourquoi tu prends Hérodote pour
ta... » Tu nous as pris Hérodote.
Et Lacoste de lui dire « Vous n'en avez rien fait. » Et je pense que c'était j'allais dire, presque un coup de génie d'appeler une revue de géographie Hérodote.
Et alors, comment cette revue sélectionne-t-elle ses auteurs qui sont extrêmement divers?
Au départ, c'est une revue qui ne fonctionne pas sur les critères des revues scientifiques bien comme il faut. C'est-à-dire que on fait pas des appels comme ça qui partent partout. Entre nous, on réfléchit. Quel type de thème on veut traiter? Comment on veut le traiter? Et quand on est d'accord sur les axes qu'on veut prendre, avec qui on va le traiter? C'est-à-dire qu'Hérodote commande les articles. Donc à partir du moment où on commande...
Sans les payer.
Sans les payer. Mais il y a beaucoup de revues où on ne paye pas les articles. Hein. Et comme les gens ont tellement besoin d'être publiés que ce n'est pas vraiment un exploit de ne pas les payer aujourd'hui.
Mais vous choisissez des auteurs qui sont déjà installés ou des jeunes auteurs?
Non, les deux. C'est-à-dire qu'on a aussi des auteurs qui sont reconnus, bons connaisseurs évidemment, soit de la zone ou du thème qu'on va traiter, bien sûr. Mais depuis le début, Hérodote publie des jeunes chercheurs, même on va dire des apprentis chercheurs. Alors, la chance que nous avons, c'est qu'on a pu créer l'Institut français de géopolitique, c'est-à-dire que Lacoste, en 89, est créé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le premier, c'était à l'époque un DEA, diplôme d'études approfondies, et où on va faire une formation de géopolitique. On démarre ça tous les deux, sans locaux, sans rien, hébergés à la Sorbonne. Enfin, c'était vraiment la grande aventure. Et puis, évidemment, tout ça s'est concrétisé, c'est affirmé, et avec tout ce savoir-faire accumulé et la notoriété d'Hérodote, j'ai obtenu en 2002 la création de l'Institut français de géopolitique.
Si tu permets, je crois qu'il faut dire qu'au début d'Hérodote, c'est un scandale épouvantable dans la corporation, parce que on accuse explicitement les géographes
d'écarter le politique,
d'enlever toute signification, toute possibilité d'une utilisation sur des problèmes politiques. Et ça, en parler, c'était vraiment quelque chose de très mal vu.
C'était pas scientifique.
Bon, voilà. Donc vous n'aviez pas d'appui académique.
Et par conséquent, je rajoute à ce que Béatrice vient de dire, c'est que les auteurs qui acceptent à notre demande d'écrire dans Hérodote, ils prennent un risque considérable. Au début, c'est pas du tout flatteur. Et au début, on a eu ce paradoxe, soit des jeunes qui se moquaient de leur avenir professionnel, parce qu'ils ont vu, bon, ils n'en mesuraient pas l'intérêt, soit des géographes qui avaient déjà un statut suffisamment respecté, et on a eu dès le début le soutien de très grands géographes, hein, en particulier Jean Drèche, qui était le directeur de l'Institut de géographie, bon, et quelques autres, mais Hérodote m'a brouillé avec des géographes que j'estimais forts, mais le fait que ça vienne explicitement de l'université de Vincennes, qui était considérée après 68 comme un scandale... Hein,
très contestataire.
Très contestataire, etc. Et le scandale avait été largement diffusé par la presse. C'était très mal vu. Hein. Donc, le début d'Hérodote, c'est quelque chose qui se fait
dans l'adversité.
Oui, mais heureusement, ça a été notre chance que ça se fasse dans l'adversité. D'abord parce que on avait le sentiment d'être un peu des héros, hein. On résistait, on faisait des choses, ça nous donnait de nous-mêmes une image extrêmement flatteuse. Donc ça nous plaisait bien. Et puis la deuxième chose qui nous plaisait bien, c'est que du coup, on était assez soudés parce qu'il fallait faire face, il fallait résister d'une certaine façon. Et ça nous a donné aussi une notoriété parce que tout ce qui est excessif, évidemment, est un peu dérisoire. Et il y a eu des prises de position totalement excessives. On a brûlé Hérodote au début. Enfin,
pas de notre fait.
Non,
de l'institution universitaire qui était horrifiée.
Non, mais c'était même pas l'institution. C'était des petites gens.
D'accord. Donc, on a bien compris les débuts d'Hérodote en grande difficulté. Vous écoutez Géopolitique, le débat sur RFI. On marque une petite pause. Le temps de prendre connaissance des informations avec la rédaction.
Géopolitique, Éric Bataillon.
Merci pour ces informations. Retour à notre débat consacré à la revue de géopolitique Hérodote avec son fondateur Yves Lacoste, sa directrice actuelle Béatrice Gibelin et Delphine Papin, cartographe au journal Le Monde et membre du comité éditorial d'Hérodote. Alors justement, Delphine Papin, on ne vous a pas donné la parole jusqu'à présent. Il y avait d'autres témoignages à porter sur évidemment la création de la revue. Vous participez au comité éditorial. Plus particulièrement, vous faites attention à l'accompagnement des auteurs et notamment avec les cartes, c'est-à-dire vous les aidez souvent à faire des cartes. Comment ça se passe ?
Comme on vous l'a expliqué, comme Yves l'a raconté au début, l'importance du territoire est fondamentale dans notre démarche. Et donc, on a des auteurs qui ne sont pas toujours géographes, mais qui peuvent être aussi des gens qui viennent de sciences politiques, des historiens, des sociologues, et qui ont toujours une réflexion territorialisée, puisque c'est quand même le but de notre démarche, mais qui ne savent pas forcément faire des cartes. Donc mon rôle, modeste, c'est aussi de réfléchir avec eux, de leur faire, entre guillemets, accoucher d'une carte, parce qu'ils ont les idées, ils ont été sur le terrain, ce sont des fins connaisseurs à la fois des peuples et à la fois de la géographie du territoire, mais face à l'outil technique, souvent ils nous font des cartes qui sont plus faibles que ce qu'ils produisent dans leurs textes. Donc notre idée, c'était aussi de favoriser le développement de la cartographie dans Hérodote. Donc on en fait quelques-unes, avec une contrainte technique qui est le noir et blanc. Là, je fais un appel à notre éditeur.
Oui, parce que ça, c'est une des améliorations qui pourrait être apportée à la revue, c'est qu'il manque un peu de couleur, et pour les cartes, c'est très embêtant.
Alors tout à fait, ça veut dire qu'on fait des cartes qui sont parfois un peu plus simples que ce qu'on aimerait, parce que la complexité de ce qu'on explique dans ces articles est importante. C'est pour ça que des fois, on en fait un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on va développer sur deux cartes ce qu'on mettrait sur une en couleur. Mais on a eu la chance, dans le dernier numéro d'Hérodote, justement sur le monde arabe, donc cette thématique-là, d'avoir une très grande carte en couleur qui enveloppe en fait le numéro et qui raconte les enjeux du monde arabe. C'est une belle carte qui a été faite par un cartographe qui s'appelle chez Martine Laborde, mais qui est faite en collaboration avec à la fois avec moi, à la fois avec Béatrice, à la fois avec Yves, à la fois avec les auteurs.
Et la possibilité d'une carte sur un article, c'est un critère de sélection par exemple, ou ça n'a rien à voir?
Non, c'est pas forcément un critère de sélection, parce que parfois, il n'y a pas nécessité de faire une carte. Mais depuis que Delphine est aux manettes, le nombre des cartes a quand même beaucoup augmenté dans Hérodote. Oh. C'est une des caractéristiques qu'on a, avec la possibilité de faire dans un même article des cartes à différents niveaux d'analyse, par exemple. Je crois que c'est un outil important, qui est au fond une sorte de signature d'Hérodote. Vous prenez des tas d'autres revue de géographie, même si les cartes sont beaucoup plus fréquentes partout, parce que l'outil rend la cartographie plus facile. Tout dépend ce qu'on veut faire dire aussi à une carte. Alors, quand vous faites de la quadricomie, puis il y a des revues comme Carto, qui sont des revues en quatre couleurs, et qui donc font une carte très accessible. C'est vrai que les cartes d'Hérodote ont un côté un peu austère, mais la couleur est chère. Donc,
avec quand même une différence sur d'autres revues, je pense, de géographie, c'est qu'on se permet aussi de faire des cartes que je dirais qualitatives, c'est-à-dire pas forcément des cartes statistiques. On sort très souvent de la carte statistique pour faire des cartes d'analyse géopolitique. Et vous avez vu dans la première partie qu'Yves Lacoste raconte la géographie comme on raconte des histoires. Eh bien, on essaie de faire un petit peu la même chose avec les cartes, et on essaie de raconter des histoires sur la carte. Donc il y a souvent une réflexion sur la légende qui raconte les enjeux, où on peut lire la légende presque en dehors de l'article, entre guillemets, même si les deux se raccrochent toujours. Et ça, c'est une dimension que je crois assez intéressante.
Alors, on disait en fin de première partie de cette émission que la création d'Hérodote ne s'était pas faite sans quelques difficultés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'au contraire, la revue est installée dans une certaine réussite. On a vu cette semaine donc un ministre de la Défense venir à un anniversaire d'une revue. C'est quand même un peu banal, ça doit être pointé. Béatrice Gibelin, qu'est-ce qui fait que finalement il y a cette réussite, et comment elle se traduit aussi aujourd'hui?
D'abord, c'est beaucoup de travail. La réussite de la revue, c'est d'abord beaucoup de travail. C'est 40 ans d'un travail assidu, incontestable, porté. Et je pense que la réussite de la revue, c'est, j'allais dire ça, son âme. C'est presque un peu exagéré, mais c'est Lacoste qui a pensé cette revue. Et c'est Lacoste qui en a été le directeur pendant 30 ans, dans une petite équipe, dont il a été incontestablement le leader. Alors, ceux qui supportaient pas, ben, ont quitté la revue. Et puis, non, il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Et puis, ceux qui s'y sont trouvés bien ont continué. Et c'est ça qui a été important. Parce que, du coup, les gens savaient, quand ils prenaient Hérodote, qu'ils allaient pas trouver une revue avec des articles différents. Non, ils allaient avoir une question qui allait être traitée et qui allait les aider vraiment à comprendre une situation compliquée. Alors, on a mis du temps à l'installer, ça. Mais c'est vraiment maintenant installé. Hérodote n'a pas de varia, par exemple. Vous savez, c'est en fin d'année, là, on casse tous les articles qu'on n'a pas su caser. Et Hérodote reçoit assez peu d'articles de l'extérieur. On nous propose des articles. Mais si ça rentre pas dans notre programme, eh ben, ça rentre pas et on prend pas. Si ça correspond pas à notre façon de faire, on prend pas. Donc, c'est ça, à mon sens, qui contribue à expliquer le succès de la revue. Et en préparant ce numéro, j'ai relu les articles qu'on avait faits sur le monde arabe. Eh bien, je dois dire que j'étais impressionnée. Impressionnée de la pertinence de ces articles, de la justesse avec laquelle les questions étaient posées, écrits 30 ans avant, 20 ans avant. Et on pouvait les relire. Et certains, je pense à un article de Maxime Rodinson, par exemple, sur la décolonisation de la Palestine, l'échec de la décolonisation de la Palestine. Mais c'est un article qu'il faudrait republier aujourd'hui. L'entretien avec Harkoun, qui est un très, très bel entretien. Ouais, bon. Parce que Lacoste pouvait sans hésiter et toujours demander au meilleur, soit un entretien, soit un article, et c'était toujours oui.
Yves Lacoste.
Oui. Ce que dit Béatrice, je vais le résumer. C'est que la chance qu'on a eue, c'est pas devenu d'une position de principe. Une fois qu'on a marqué le premier numéro qui a fait scandale, et on l'avait bien cherché, hein, bon, pendant quelques numéros, on savait pas très bien qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis, l'idée est venue progressivement qu'il fallait que chaque numéro soit centré sur un thème.
Ça, c'est une différence essentielle par rapport à beaucoup d'autres revues.
Ah oui, ça.
Les autres revues aujourd'hui viennent sur ce modèle-là.
Mais on a eu quatre ou...
Même pas. Le quatrième était déjà un numéro
oui,
centré.
Oui, un numéro à thème. Et ça, ça a été un
c'est
un,
la marque de fabrique,
choix,
oui, absolument.
Qui s'est fait comme ça. 2 ans à l'avance, on sait qu'en chantier, on en parle avec un certain nombre d'auteurs, qu'on leur demande. Alors généralement, au bout de quelques années... c'était rare qu'il refuse. Hein.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la revue Hérodote porte une certaine idée de la pensée à la française ?
Je crois. Je crois.
Est-ce que les articles sont repris, par exemple, sur...
La meilleure preuve, c'est que le gouvernement actuel a tenu à diffuser la pensée française. Voilà, oui, à l'étranger, donc en anglais. Et il a confié au Centre National du Livre un choix de revues dont un certain nombre d'articles seraient traduits tous les ans. 10 articles par année par revue. Hérodote en fait partie. Donc le CNL subventionne et la traduction et le portail Cairn, qui est le grand portail des revues, enfin un des grands portails des revues, finance l'autre partie et 10 articles chaque année sont traduits. On fait un choix et c'est donc diffusé très très largement à l'international. Si Hérodote a été retenue, c'est bien parce qu'on estime qu'elle a une signature de la pensée française. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et que c'est là aussi pour nous vraiment la confirmation du bien fondé de ce qu'on défend et de ce qu'on essaye de faire. Et l'équipe qui suit, plus jeune, est, je crois, encore bien plus douée que nous pour diffuser tout ça. Je pense à Frédéric Douzet, bien sûr.
Alors, et Delphine Papin qui est là avec nous. Alors Delphine, vous travaillez au Monde. Est-ce que la revue Hérodote est une revue qui est largement lue dans une rédaction comme celle du Monde ?
Oui, je pense qu'on... Enfin, je sais pas que je pense, c'est que je sais qu'elle est lue au service international, qu'elle est attendue même au service international. Et puis au sein du service infographie, parce que c'est souvent de cette base-là dont on part pour faire nos cartes qu'on produit une fois par semaine dans la section qu'on a appelée justement géopolitique. Et bien souvent, on fait appel aux auteurs de la revue. Donc on a lu leur article, on fait appel aux auteurs et on refait une carte à partir soit en s'inspirant des cartes d'Hérodote, soit en l'enrichissant par la même occasion, mais c'est sûr que c'est une revue qui est importante pour la presse aussi.
Alors aujourd'hui, bon, la revue est bien installée, on l'a dit, et comment peut-elle se développer plus à l'heure numérique, par exemple, Béatrice Giblin? Est-ce qu'elle peut aller sur Internet? Est-ce qu'elle peut se développer dans d'autres langues?
D'abord, sur Internet est lié, puisque tous les numéros d'Hérodote sont sur Internet. Hein. La BNF a numérisé les 100 premiers numéros, et la suite, c'est Kern qui les a mis en ligne. Donc les deux premières années de sortie, il faut payer l'article pour le lire en entier, mais au bout de 2 ans, tout Hérodote est accessible gratuitement. Donc c'est un atout évidemment extraordinaire. Donc ça se développe beaucoup par ça, mais curieusement, et l'éditeur l'a découverte, on est surpris, les abonnements papier diminuent pas si vite qu'on le pensait. Ça, c'est un peu... Je pense que la pyramide des âges des abonnés d'Hérodote fera que ça va se diminuer un jour ou l'autre, mais c'est encore très présent. Alors, comment ça peut se développer à l'international? D'abord parce que nous formons aujourd'hui des jeunes chercheurs étrangers qui enseignent la géopolitique chez eux. On a le cas au Mexique, par exemple, avec Juliette Lafuentes, qui porte la pensée géopolitique française, elle a fait sa thèse avec moi, et qui diffuse, et elle fait venir des enseignants de l'Institut pour faire des cours. Je suis allée plusieurs fois au Brésil, c'est la même chose. On forme des gens de l'étranger qui vont initier, au fond, un enseignement géopolitique. Et je pense que c'est le meilleur moyen, si vous voulez, de diffuser ça. J'ai un étudiant qui a fait cette thèse avec moi, iranien, qui est retourné en Iran, qui est dans une zone délicate, Zaïdan, du côté du Baloutchistan, et il me dit toujours, Madame Giblin, ça me sert tous les jours, l'enseignement que vous m'avez donné. Et je pense que c'est comme ça que la pensée va se diffuser. Et on a des gens qui travaillent très très bien sur la Russie, et qui font des choses tout à fait remarquables. Je pense à Kevin Limonier. Et oui, moi, je suis extrêmement optimiste sur la pensée d'Hérodote.
Alors, vous écoutez, de Lacoste. Vous écoutez RFI, l'émission Géopolitique Le Débat, qui est consacrée, vous l'entendez, à la revue de géographie et de géopolitique. Hérodote, je voudrais qu'on parle justement du dernier numéro, celui qui sort, qui est un numéro double, Le Monde Arabe, regard géopolitique au pluriel. Alors, Hérodote a, au cours de ses 40 dernières années, souvent abordé, à plusieurs reprises, analysé des situations au Moyen-Orient. Mais en fait, il n'y a jamais véritablement eu de numéro consacré au Moyen-Orient en sens large. Pour quelle raison, Yves Lacoste? Est-ce que c'est un oubli ou alors est-ce que c'est simplement...
Non, comme Béatrice a bien montré, elle a relevé tous les articles qui avaient été publiés sur le monde arabe, ou bien une partie, hein, sur l'Algérie, sur l'Égypte, etc. Et là, étant donné que la découverte, les maisons d'édition, la découverte qui publie Hérodote et qui n'a jamais cessé de soutenir, malgré une période où la situation financière de ces éditions était encore très préoccupante, et jamais il était question, et du temps de François Mespero, et sous la direction de François Gèze, de dire, bon, ben, Hérodote, ça nous coûte trop cher, on va arrêter. Ça a été un soutien absolument. Et là, eh bien, je dois dire que la découverte a vu grand et a permis de sortir ce magnifique numéro qui a un gros pavé, hein.
Alors, Béatrice Giblin, est-ce que aborder le monde arabe au sens large, comme c'est fait dans ce numéro, c'était trop complexe pour le faire précédemment?
D'abord, il nous a fallu l'équivalent de 2 numéros, hein, c'est 1,6 million quand même. Bon, donc, parce que c'est une situation très complexe et on tenait à la fois à ce qu'il y ait des études de cas fouillées, sérieuses, comme on a l'habitude de les faire à Hérodote. Je pense par exemple à l'article de Marc Laverne qui retrace 40 ans d'évolution de l'Égypte. C'est un article qui est extrêmement intéressant parce qu'il remet dans la durée une évolution et ça permet aux gens de comprendre beaucoup mieux les situations. On pourrait en citer d'autres, mais je pense à celui-ci qui est, à mon avis, très symptomatique, représentatif de ce qu'on essaye de faire. Et puis, il nous intéresse aussi de réfléchir sur la représentation du monde arabe. Pour certains, le monde arabe n'existe plus. Et alors, d'autres disent, ah non, c'est les mondes arabes. Et, mais il y a néanmoins une représentation qui continue de circuler et de mobiliser, qui est le monde arabe. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs le monde arabe, regard géopolitique au pluriel. Parce qu'il est bien évident, pas question de nier cette diversité, cette conflictualité, et que le monde arabe a d'abord, ça a une naissance. Hein, quand parle-t-on pour la première fois du monde arabe ? C'est à la fin du 19e siècle qu'on va parler du monde arabe et que cette idée-là va être portée par des chrétiens arabes. Donc c'était intéressant quand même de revenir là-dessus. On peut pas dire le monde arabe, c'est les États de la Ligue arabe. On n'a rien dit quand on a dit ça.
En fait, ce que fait Hérodote, c'est de donner un éclairage et de rappeler quels sont les tenants et les aboutissants des différentes difficultés.
Oui, de donner des éclairages, de donner des éléments pour que chacun, en fonction de ses convictions, en fonction de ses choix politiques, se fasse une idée. Et Hérodote ne prend pas position sur le monde arabe existe ou le monde arabe n'existe pas. Je veux dire, ce n'est pas l'objet d'Hérodote. L'objet d'Hérodote, c'est de présenter des auteurs pour qui, avec des arguments, le monde arabe n'existe plus, et d'autres pour qui le monde arabe existe. Après, à chacun de prendre conscience, d'abord que c'est une représentation, deuxièmement que cette représentation, dans certains contextes, peut être une représentation mobilisatrice, et qu'elle existe ou pas vraiment. Ce qui nous importe, c'est quel effet géopolitique elle va pouvoir avoir.
Et c'est au lecteur de se faire sa propre opinion, en quelque sorte.
Oui, bien sûr, on ne lui dit pas, il faut penser comme ça. Mais on regarde des rapports de force précis, et j'allais dire, ce n'est pas forcément celui qu'on aime qui a le meilleur rapport de force. Voilà. Et que ça nous plaise ou non, il faut regarder les choses avec le maximum d'objectivité possible.
Yves Lacoste.
Tout à l'heure, vous avez posé la question à propos de la pensée française. C'est une question très importante et on reviendra. Une école de géographie, au sens global du terme, hein, non pas une école avec des examens, etc. C'est quelque chose dont je me rends compte maintenant, qui est très exceptionnel. Et je ne vais pas dire que la première école historiquement de géographie, c'est la géographie française. Ce n'est pas vrai. La première école de géographie, c'est-à-dire avoir un enseignement qui forme des professeurs du secondaire, mais qui entraîne aussi des instituteurs à parler de géographie, c'est l'école géographique allemande, hein, qui démarre après les guerres napoléoniennes et qui résulte d'une réflexion des dirigeants prussiens, c'est la Prusse, hein, notre vieil adversaire. Mais là, il faut se rendre compte. Hein. Et vers 1820, les dirigeants prussiens, ils ont eu un très très grand géographe, alors l'a reconnu, Alexandre de Humboldt, hein, bon, et l'université de Berlin, elle s'appelle Université Alexandre de Humboldt. Hein. Ils se disent, eh bien, il faut préparer l'unité de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, au lendemain des guerres napoléoniennes, elle est encore morcelée en petits états, royaumes, etc. Et l'idée, hein, ce n'est pas de dire on va réunir ceux qui parlent allemand. Parce que la grande puissance de l'époque, hein, l'Empire allemand, c'est l'Autriche. Et ils parlent allemand. Et la Prusse ne veut pas, hein, travailler pour renforcer. Par conséquent, il va y avoir un choix extraordinaire, hein, qui au point de vue géographique est absolument passionnant. Au lieu de dire c'est ceux qui parlent allemand, c'est ceux qui regardent, qui vivent sur les mêmes paysages. Hein. L'idée de paysage, hein, n'est pas seulement une question que les romantiques ont évoquée, que les peintres, etc. Hein. C'est une idée. Je serais tenté de dire aujourd'hui, maintenant, hein, c'est une idée géopolitique.
Et c'est sur cette idée géopolitique que s'achève cette émission. Merci Yves Lacoste, une émission consacrée à Hérodote, qui fête cette année donc ses 40 ans. Merci donc à Yves Lacoste, fondateur de la revue en 1976, ancien professeur de géopolitique à l'Université Paris 8, à Béatrice Gibelin, directrice de la revue, professeure émérite à l'Institut français de géopolitique de Paris 8. Et merci également à Delphine Papin, cartographe au journal Le Monde et membre du comité éditorial de la revue. Merci à Nathalie Laporte qui a mis en onde cette émission. Vous retrouverez Marie-France Chatin à ce micro dès samedi prochain. En attendant, bonne semaine à l'écoute de RFI.